Je pense qu'en vieillissant, la plupart des gens ont tendance à méditer davantage sur ce qui nous attend après. Étant moi-même bientôt septuagénaire, je suis bien placé pour le savoir. Plusieurs de mes nouvelles et au moins un roman, Revival, ont abordé cette question. Je ne dirais pas traiter cette question, car cela impliquerait que j'en sois arrivé à une sorte de conclusion, or aucun de nous ne peut réellement en tirer, n'est-ce pas? Personne n'a jamais envoyé de vidéo du pays de la mort avec son téléphone portable. Il y a la foi, bien sûr, et un véritable déluge de livres proclamant que le paradis existe, mais par définition, la foi est la croyance sans preuve. En gros, il n'y a que deux choix possibles. Soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. Dans le deuxième cas, l'affaire est classée. Dans le premier, il existe une myriade de possibilités. Paradis, enfer, purgatoire et réincarnation figurant en tête du hit-parade de l'au-delà. À moins qu'on y trouve ce qu'on a toujours imaginé y trouver. Peut-être le cerveau est-il équipé d'un système de sortie intégré, programmé pour se mettre en marche quand tout le reste tombe en rade et qu'on s'apprête à prendre ce fameux dernier train? Selon moi, les témoignages d'expériences de mort imminente tendent à valider cette idée. Ce que moi j'aimerais, je crois, c'est avoir la chance de tout revivre à nouveau, comme une espèce d'expérience cinématographique immersive, afin de pouvoir savourer les bons moments et les bonnes décisions, comme avoir épousé ma femme et décidé d'avoir notre troisième enfant. Bien sûr, j'aurais aussi à déplorer mes erreurs, j'en ai commis pas mal, mais qui n'aimerait pas revivre son premier baiser, ou avoir la possibilité de se détendre pour profiter pleinement de la cérémonie de mariage qui fila comme un rêve brouillé par la nervosité. Cette histoire ne parle pas d'une telle rediffusion, pas vraiment, mais réfléchir à cette possibilité m'a conduit à écrire sur l'après-vie d'un homme. Si le fantastique reste un genre aussi vital que nécessaire, c'est qu'il nous permet d'aborder de tels sujets d'une manière dont le réalisme est incapable. Après-vie. William Andrews, investisseur chez Goldman Sachs, meurt dans l'après-midi du 23 septembre 2012. C'est une mort attendue. Sa femme et ses enfants, maintenant adultes, sont à son chevet. Ce soir-là, quand elle s'accorde enfin un peu de temps seule, loin du flot continu de proches et de visiteurs venus présenter leurs condoléances, Lynn Andrews téléphone à sa plus vieille amie, qui vit toujours à Milwaukee. C'est Sally Freeman qui lui a présenté Bill. Et si quelqu'un mérite de connaître les 60 dernières secondes de ses 30 années de mariage, c'est bien Sally. Il a été inconscient quasiment toute la semaine, à cause du traitement, mais il était conscient à la fin. Il avait les yeux ouverts et il m'a vu. Il a souri. J'ai pris sa main et il l'a un peu serrée. Je me suis penché pour lui faire un baiser sur la joue. Quand je me suis redressé, il était parti. Ça faisait des heures qu'elle avait envie de le dire, et maintenant qu'elle l'a dit, elle fond en larmes. Sa supposition que le sourire lui était destiné est pour le moins naturelle, mais erronée. Alors qu'il a les yeux levés vers sa femme et ses trois enfants, tout semble impossiblement grand, créature d'une angélique bonne santé, habitant un monde qu'il est maintenant en train de quitter. Bill sent la douleur qu'il a accompagnée ces 18 derniers mois quitter son corps. Elle se déverse hors de lui comme de l'eau sale qu'on vide d'un seau. Alors, il sourit. Une fois la douleur disparue, il ne reste plus grand-chose. Son corps est aussi léger qu'une aigrette de laiteron. Sa femme lui prend la main, tendant la sienne depuis les hauteurs de son monde de bien portant. Il s'est réservé un peu de force qu'il utilise pour lui presser les doigts. Elle se penche, elle va l'embrasser. Avant que ses lèvres ne touchent sa peau, un trou apparaît au centre de son champ de vision. Ce n'est pas un trou noir, mais blanc. Il s'étire, oblitérant le seul monde qu'il ait connu depuis 1956, année où il naquit dans le petit hôpital du comté de Hemmingford, dans le Nebraska. Au cours de cette dernière année, Bill a fait beaucoup de recherches sur le passage de la vie à la mort, sur son ordinateur, prenant toujours soin d'effacer l'historique afin de ne pas inquiéter Lynn, qui fait preuve d'un optimisme sans faille bien qu'insensé. Et alors que la plupart de ses lectures lui ont paru être des conneries, le phénomène de la lumière blanche lui a semblé assez plausible. D'abord, il a été rapporté dans toutes les cultures. De plus, il bénéficie d'un soupçon de crédibilité scientifique. Une théorie avance que la lumière blanche est le résultat de l'interruption soudaine de l'apport de sang au cerveau. Une autre, plus élégante, suggère que le cerveau se livre à un dernier scan général en vue de retrouver une expérience comparable à la mort. à moins que ce ne soit juste un feu d'artifice final. Quelle qu'en soit la cause, Bill Andrews est à présent en train de le vivre. La lumière blanche avale sa famille, ainsi que la chambre spacieuse d'où les employés de la morgue retireront bientôt son corps drapé et sans vie. Au fil de ses recherches, il s'est familiarisé avec l'acronyme EMI pour expérience de mort imminente. Dans beaucoup de ces expériences, la lumière blanche devient un tunnel au bout duquel vous appellent des membres de votre famille déjà décédés, ou bien des amis, des anges, Jésus, ou quelque autre divinité bienfaisante. Bill ne s'attend à aucun comité d'accueil. Non, il s'attend à ce que le feu d'artifice final s'évanouisse dans la nuit noire de l'oubli. Mais ça n'arrive pas. Quand l'éclat diminue, il n'est ni au paradis ni en enfer. Il est dans un corridor. Il suppose que ce pourrait être le purgatoire. Un corridor avec des murs verts industriels et un carrelage ébréché et sale pourrait très bien être le purgatoire. Mais seulement s'il se prolonge sur une éternité. Celui-ci s'achève 6 mètres plus loin, sur une porte indiquant « Isaac Harris, manager ». Bill reste quelques instants où il est, faisant l'inventaire de sa personne. Il porte le pyjama dans lequel il est mort, du moins il suppose qu'il est mort, et il est pieds nus. Mais il n'y a plus aucune trace du cancer qui a d'abord goûté son corps, puis l'a ensuite dévoré pour ne laisser qu'un squelette dans un sac de peau. Il paraît avoir retrouvé ses 85 kilos, son poids de forme légèrement mou du ventre, il est vrai, avant que le cancer ne frappe. Il se palpe les fesses et le creux des reins. Les escarres ont disparu. Chouette ! Il prend une profonde inspiration et expire sans tousser. Encore mieux. Il longe un peu le corridor. Sur sa gauche, il y a un extincteur surmonté d'un graffiti insolite. Mieux vaut tard que jamais. Sur sa droite, un panneau d'affichage. Quelques photos y sont punaisées, du genre rétro avec les bords dentelés. Au-dessus, une banderole écrite à la main indique « Pique-nique d'entreprise 1956. Qu'est-ce qu'on s'est amusé ?» Bill examine les photos montrant des directeurs, des secrétaires, des employés de bureau et une flopée de gamins barbouillés de glace batifolant au milieu. Il y a des types qui s'occupent d'un barbecue, l'un d'eux coiffé de la toque fantaisiste de rigueur, des types et des nanas qui jouent au lancer de fer à cheval, des types et des nanas qui jouent au volet, des types et des nanas qui nagent dans un lac. Des types portent des maillots de bain tellement courts et moulants qu'ils en paraissent presque obscènes à ces yeux d'hommes du XXIe siècle. Mais très peu d'entre eux ont du bide. Ils ont le physique des années 1950, pense Bill. Les nanas portent ces maillots de bain une pièce démodée style Esther Williams, ce qui donne l'impression qu'elles n'ont pas de fesses mais seulement une inclinaison douce et lisse dépourvue de raies en bas du dos. On consomme des hot dogs, on boit de la bière, on s'amuse visiblement comme des petits fous. Sur l'une des photos, il voit le père de Richie Blankmore tendre un marshmallow grillé à Anne-Marie Winkler. C'est absurde parce que le père de Richie était camionneur et qu'il n'est jamais allé à un pique-nique d'entreprise de sa vie. Anne-Marie est une fille avec laquelle Bill est sorti à la fac. Sur une autre photo, il reconnaît Bobby Tisdale, un copain de fac du début des années 1970. Bobby, qui aimait s'appeler lui-même Tiz le prodige, est mort d'une crise cardiaque à la trentaine. Il était probablement sur Terre en 1956, mais il aurait été en maternelle ou au cours préparatoire, pas en train de boire des bières au bord du lac machin chose. Sur cette photo, Tiz fait dans les 20 ans, l'âge qu'il devait avoir quand Bill l'a connu. Sur une troisième photo, la mère d'Eddie Scarponi est en train de frapper un ballon de volley. Eddie était le meilleur copain de Bill, avant que la famille de Bill quitte le Nebraska pour aller habiter à Paramus, dans le New Jersey. Et Gina Scarponi, entreaperçue une fois en train de bronzer sur sa terrasse en culotte blanche vaporeuse et rien d'autre, était l'un des fantasmes préférés de Bill quand il était encore jeune apprenti masturbateur. Le type avec la toque rigolote est Ronald Reagan. Bill regarde de plus près, le nez presque collé à la photo en noir et blanc, et il n'y a aucun doute. Le 40e président des États-Unis fait griller des steaks à un pique-nique d'entreprise. Mais quelle entreprise? Et où au juste se trouve Bill en ce moment? Son euphorie d'être à nouveau en bonne santé et délivré de la douleur est en train de passer. Elle est remplacée par un sentiment grandissant de dépaysement et de malaise. Voir tous ces visages familiers sur ces photos n'a aucun sens, et le fait qu'ils n'en connaissent pas la majorité n'offre au mieux qu'une maigre consolation. Il regarde derrière lui et voit des escaliers conduisant à une autre porte. celle-ci porte le mot « fermé » en grandes lettres capitales rouges. Ce qui ne laisse d'autre choix que le bureau de M. Isaac Harris. Bill s'avance, hésite, puis frappe à la porte. « C'est ouvert ?» Bill entre. Debout à côté d'un bureau encombré, se tient un homme en pantalon de costume ample à taille haute, maintenu par des bretelles. Ses cheveux bruns sont plaqués contre son crâne et séparés par une raie au milieu. Il porte des lunettes sans monture. Les murs sont tapissés de factures et de photos ringardes de pin-up tout en jambes qui lui rappellent la compagnie de transport pour laquelle le père de Richie Blankmore travaillait. Il y était allé plusieurs fois avec Richie, et le bureau des expéditions ressemblait à ça. À en croire le calendrier sur l'un des murs, on est en mars 1911, ce qui est aussi insensé que 1956. À la droite de Bill, en entrant, il y a une porte. À sa gauche, une autre porte. Il n'y a pas de fenêtre, mais un tube en verre sort du plafond et pend au-dessus d'un chariot de linge d'Andrax. Le chariot est rempli d'un tas de papiers jaunes qui ressemblent à davantage de factures, à moins que ce ne soit des mémos. Une pile de dossiers de 60 cm de haut occupe la chaise en face du bureau. « Bill Anderson, c'est ça ?» L'homme s'installe à son bureau. Il n'offre pas de poignée de main. « Andrews ?»« C'est ça. Moi, c'est Harris. Vous revoilà donc, Andrews. » Au vu de toutes les recherches de Bill sur la mort, ce commentaire a du sens. Et c'est un soulagement. Pour autant qu'il n'ait pas à revenir sur Terre sous la forme d'un bousier ou autre. Donc, c'est la réincarnation ? C'est ça le truc ? Isaac Harris soupire. « Vous posez toujours la même question, et je donne toujours la même réponse. Pas vraiment. Je suis bien mort, n'est-ce pas ? Vous sentez-vous mort ? Non, mais j'ai vu la lumière blanche. Ah oui, la fameuse lumière blanche. Toujours la même rengaine. Une minute, voulez-vous ? » Harris farfouille dans la paperasse sur son bureau, ne trouve pas ce qu'il cherche, et commence à ouvrir des tiroirs. Il sort de l'un d'eux quelques dossiers supplémentaires et en sélectionne un. Il l'ouvre, le feuillette, puis hoche la tête. « Pour me rafraîchir un peu la mémoire. »« Banquier, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Marié, trois enfants, deux garçons et une fille ?»« Exact. »« Mes excuses, j'ai quelques 200 pèlerins. Il est difficile d'y voir clair dans tout ça. Je n'arrête pas de me dire qu'il faut que je mette de l'ordre dans ces dossiers, mais c'est un véritable travail de secrétaire, et puisqu'ils ne m'en ont jamais fourni, c'est qui il ?» Aucune idée. Toute communication se fait via le tube. Il tapote le tube en question. Le tube se balance puis s'immobilise à nouveau. Il marche à l'air comprimé, haute technologie. Bill s'empare des dossiers qui occupent la chaise du client et, haussant les sourcils, consulte du regard l'homme derrière le bureau. « Posez-les par terre, dit Harris. Ça ira pour le moment. Un de ces jours, je vais réellement m'organiser. Si les jours existent, probablement que oui, et les nuits aussi. Mais qui peut l'affirmer ? Il n'y a aucune fenêtre ici, comme vous l'aurez remarqué, et aucune horloge. » Bill s'assoit. « Pourquoi m'appeler pèlerin si ce n'est pas de la réincarnation ?» Harris se cale dans sa chaise et noue ses mains derrière sa nuque. Il lève les yeux vers un tube pneumatique qui, à un moment ou un autre, devait effectivement être de la haute technologie. Disons vers 1911, même si Bill suppose que de tels engins devaient encore exister en 1956. Harris secoue la tête et glousse, mais pas de manière amusée. « Si seulement vous saviez à quel point vous devenez fatigant, tout autant que vous êtes. Selon mon dossier, ceci est notre 15e entrevue. »« Je ne suis jamais venu ici de ma vie, » dit Bill. Puis il réfléchit. « Sauf que ce n'est pas ma vie, n'est-ce pas ? C'est mon après-vie. À vrai dire, c'est la mienne. » C'est vous le pèlerin ici, pas moi. Vous et les autres crétins que je vois défiler, vous allez prendre l'une de ces portes et partir. Moi, je reste. Il n'y a pas de toilette ici parce que je n'ai plus besoin de faire mes besoins. Il n'y a pas de chambre, car je n'ai plus besoin de dormir. Tout ce que je fais, c'est rester là à jacasser avec vous autres crétins de passage. Vous entrez, vous posez les mêmes questions et je donne les mêmes réponses. C'est mon après-vie. Excitant, n'est-ce pas ? Bill, qui s'est renseigné sur tous les tenants et aboutissants théologiques au cours de son projet de recherche finale, décide qu'il avait vu juste quand il était encore dans le corridor. « Vous parlez du purgatoire ?»« Oh, sans aucun doute. La seule question que je me pose, c'est pour combien de temps j'en ai. J'aimerais pouvoir vous dire que je vais finir par devenir fou si je n'avance pas. mais je ne suis même pas sûr de pouvoir devenir fou. Tout comme je ne peux ni chier ni dormir. Je sais que mon nom ne vous dit rien, mais nous avons déjà discuté de tout ça auparavant. Pas à tous les coups, mais plusieurs fois. Il agite un bras avec tant de vigueur que certaines des factures punaisées au mur volettent. Ceci est, ou était, je ne suis pas sûr de savoir lequel est correct, mon bureau dans ma vie terrestre. En 1911? Parfaitement. Je vous demanderai bien si vous savez ce qu'est un cache-corset, Bill. Mais puisque je sais que non, je vais vous le dire. C'est un chemisier pour femmes. Au tournant du siècle, mon associé, Max Planck, et moi-même possédions une usine de textile, la Triangle Shirtwaist Factory. Une entreprise rentable, mais les femmes qui travaillaient pour nous étaient de sacrées emmerdeuses. Toujours à fumer en cachette, et pire encore, à voler tout un tas de choses qu'elles cachaient dans leurs sacs à main ou fourraient sous leurs jupons. Alors, nous avons décidé de condamner les portes pour les garder à l'intérieur pendant leurs heures de sommeil, et de les fouiller à la sortie. Bref, un jour, la satanée usine a pris feu. Max et moi en avons réchappé en passant par le toit, puis l'escalier de secours. La plupart des femmes n'ont pas eu cette chance. Même si, soyons honnêtes, il faut bien reconnaître qu'elles avaient leur part de responsabilité. Fumer dans l'usine était strictement verboten, mais beaucoup le faisaient quand même, et c'est une cigarette qui a démarré l'incendie. C'est le capitaine des pompiers qui l'a dit. Max et moi avons été jugés pour homicide et acquittés. Bill revoit l'extincteur dans le couloir avec « Mieux vaut tard que jamais » écrit au-dessus. Il pense « Vous avez été reconnu coupable en appel, Monsieur Harris, sinon vous ne seriez pas ici. » Combien de femmes sont mortes? 146, répond Harris. Et je regrette chacune d'elles, Monsieur Anderson. Bill ne prend pas la peine de le corriger sur son nom. Il y a 20 minutes, il agonisait dans son lit, et maintenant le voilà captivé par cette vieille histoire dont il n'avait jamais entendu parler. Pas qu'il s'en souvienne, en tout cas. Peu après que Max et moi avons emprunté l'escalier de secours, les femmes se sont ruées dessus à leur tour. Le fichu escalier n'a pas tenu. Il s'est effondré en déversant 2 douzaines de femmes sur le pavé. Une chute de 30 mètres de haut. Elles sont toutes mortes. 40 de plus se sont jetées du 8e et du 9e étage. Certaines étaient en flammes. Elles sont toutes mortes aussi. Les pompiers sont arrivés avec des filets de sauvetage, mais elles sont passées au travers et ont explosé sur la chaussée comme des sacs remplis de sang. Une vision terrible, Monsieur Anderson. Terrible. D'autres ont sauté dans les cages d'ascenseur, mais la plupart ont juste brûlé. Comme le 11 septembre, mais avec moins de victimes. C'est ce que vous dites toujours. Et vous avez atterri ici. Tout à fait exact. Des fois, je me demande combien d'hommes sont assis dans des bureaux comme celui-ci. Et de femmes. Je suis sûr qu'il y en a aussi. J'ai toujours été visionnaire et je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas occuper des postes de cadre à petite responsabilité et de façon admirable. Chacun de nous répondant aux mêmes questions et revoyant les mêmes pèlerins. On pourrait penser que la charge de travail s'allège un peu à chaque fois que l'un de vous décide de prendre la porte de droite au lieu de prendre celle-là. Il indique la porte de gauche. Mais non. Non. Une nouvelle boîte descend du tube. Zoup. Et je me retrouve avec un crétin tout frais pour remplacer l'ancien. Parfois deux. Il se penche en avant et déclare avec force. C'est un boulot de merde, Monsieur Anderson. C'est Andrews, dit Bill. Et puis, écoutez, je suis désolé pour vous, mais bon Dieu, assumez un peu vos actes, vieux. 146 femmes, et vous aviez condamné les issues. Harris assène un coup de poing sur son bureau. Elle nous volait sans vergogne. Il ramasse le dossier et l'agite sous le nez de Bill. Vous pouvez parler, vous, hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Goldman Sachs, fraude boursière, profit par milliard, taxes par million, petits millions. Est-ce que l'expression « bulle immobilière » vous dit quelque chose? Combien de clients avez-vous trahi? Combien de gens ont perdu leurs économies de toute une vie à cause de votre cupidité et de votre manque de discernement? Bill voit très bien de quoi Harris veut parler, mais toute cette arnaque, enfin presque toute, avait été orchestrée par des gens bien plus haut placés que lui. Il avait été aussi surpris que n'importe qui quand tout était parti en couille. Il est tenté de rétorquer qu'il y a une grosse différence entre se faire dépouiller et se faire brûler vif, mais pourquoi enfoncer le couteau dans la plaie? Et puis, il passerait sûrement pour un moralisateur hypocrite. « Ok, laissons tomber, dit-il. Si vous avez des renseignements à me donner, allez-y, je vous écoute. Dites-moi quel est le marché, et je vous lâche les basques. »« C'est pas moi qui fumais, dit Harris d'un ton bas et fâché. C'est pas moi qui ai lâché l'allumette. Monsieur Harris? Bill sent les murs se rapprocher. Si je devais rester là à jamais, je me tirerais une balle, pense-t-il. Seulement, si ce que dit Monsieur Harris est vrai, il n'en aurait aucune envie, pas plus qu'il n'aurait envie d'aller aux toilettes. Bon, d'accord. Harris soupire en faisant vibrer ses lèvres. Le voici, le marché. Prenez la porte de gauche et vous revivez entièrement votre vie, de A à Z, du début à la fin. Prenez la porte de droite et vous disparaissez. Pouf, comme une bougie dans le vent, dirons-nous. D'abord, Bill ne répond rien. Il est incapable de parler et il n'est pas certain de pouvoir faire confiance à son ouïe. C'est trop beau pour être vrai. Il pense d'abord à son frère Mike et à l'accident qui est survenu quand Mike avait 8 ans. Puis à la stupide histoire de vol à l'étalage quand Bill avait 17 ans. Une broutille en soi, mais une broutille qui aurait pu faire capoter ses projets universitaires si son père n'était pas intervenu et n'avait pas parlé à la bonne personne. L'histoire avec Anne-Marie, à la résidence étudiante, qui revient toujours le hanter dans les moments les plus improbables, même après toutes ces années. Et bien sûr, cette saloperie de... Harris est en train de sourire, et son sourire est tout sauf agréable. Je sais à quoi vous pensez, parce que je connais déjà toute l'histoire. Comment vous et votre frère étiez en train de jouer à cache-cache quand vous lui avez claqué la porte de la chambre au nez pour ne pas qu'il entre et comment vous lui avez accidentellement sectionné le bout du petit doigt. Le coup du vol à l'étalage impulsif pour une montre et comment votre père a fait jouer ses relations pour vous sortir de là. Exact, il n'y a jamais eu de poursuite, sauf de sa part. Il ne m'a jamais laissé oublier cette histoire. Et puis, il y a eu la fille dans la résidence universitaire. Harris soulève le dossier. Son nom est quelque part là-dedans, je suppose. Je fais de mon mieux pour rester à jour dans mes dossiers quand j'arrive à mettre la main dessus. Mais pourquoi ne pas me rafraîchir la mémoire? Anne-Marie Winkler. Bill sent ses joues flamber. C'était pas un viol, alors n'allez pas vous mettre ça dans le crâne. Elle a passé ses jambes autour de moi quand je me suis mis sur elle. Si ça c'est pas du consentement, alors je sais pas ce que c'est. A-t-elle également passé ses jambes autour des deux gars qui sont passés après? Non, est tenté de dire Bill. Mais nous, au moins, on l'a pas brûlé vive. Et pourtant... Il est en train d'exécuter un putt sur le green, ou de travailler dans son atelier de menuiserie, ou bien de discuter avec sa fille, étudiante à son tour, de sa thèse, et il se demande où est Anne-Marie aujourd'hui, ce qu'elle fait, ce dont elle se souvient de cette nuit-là. Le sourire de Harris s'élargit pour devenir un rictus de vestiaire de mec. Ça a beau être un boulot de merde, il est clair qu'il en apprécie certains aspects. « Je vois que c'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, alors poursuivons, voulez-vous? Vous êtes en train de penser à tout ce que vous allez changer lors de votre prochain tour de manège cosmique. Cette fois-ci, vous ne claquerez pas la porte sur le petit doigt de votre frère, ni n'essaierez de voler une montre au centre commercial de Paramus. » C'était au centre commercial du New Jersey, je suis sûr que c'est écrit quelque part dans votre dossier. Comme s'il voulait chasser une mouche, Harris agite le dossier de Bill et continue. La prochaine fois, vous refuserez de vous taper votre copine semi-comateuse alors qu'elle gît sur le canapé dans le sous-sol de votre résidence d'étudiant. Et, bingo, vous allez une bonne fois pour toutes prendre ce rendez-vous pour une coloscopie au lieu de le repousser sans cesse, ayant enfin convenu, corrigez-moi si je me trompe, que l'indignité de se faire enfoncer une caméra dans le cul est un tantinet moins pire que de mourir d'un cancer du côlon. Bill dit, plusieurs fois, j'ai failli tout raconter à Lynn à propos de cette nuit-là à la résidence d'étudiants. J'ai jamais eu le courage. Mais si on vous en donnait la chance, vous ne referiez pas les mêmes erreurs. Bien sûr que non. Si on vous donnait la chance de déverrouiller les portes de l'usine, vous ne le feriez pas? Si, bien sûr. Mais il n'y a pas de deuxième chance. Désolé de vous décevoir. » Il n'a pas l'air désolé. Harris a l'air fatigué. Harris a l'air de s'emmerder. Harris a également l'air triomphant et mesquin. Il indique la porte de gauche à Bill. « Prenez cette porte, comme vous le faites chaque fois, et vous recommencez tout à zéro. Bébé de 3 kilos glissant de l'utérus de votre mère dans les mains du médecin accoucheur. On vous enveloppera de linge et vous serez ramené à la maison. » Dans une ferme du Nebraska. Quand votre père vendra la ferme en 1964, vous déménagerez dans le New Jersey. Là-bas, vous couperez le petit doigt de votre frère en jouant à cache-cache. Vous irez au même lycée, suivrez les mêmes cours et aurez les mêmes notes. vous irez à Boston College et vous commettrez le même semi-viol dans le même sous-sol de la même résidence d'étudiants. Vous regarderez alors que vos deux mêmes camarades de fraternité étudiante coucheront à leur tour avec Anne-Marie Winkler, et même si vous vous direz que vous devriez intervenir, vous ne rassemblerez jamais la force d'âme nécessaire. 3 ans plus tard, vous rencontrerez Lynn DeSalvo, et encore 2 ans après, vous vous marierez. Vous suivrez la même carrière professionnelle, vous aurez les mêmes amis, vous ressentirez la même profonde inquiétude vis-à-vis de certaines pratiques de votre firme. Et vous garderez le même silence. À 50 ans, le même médecin vous conseillera vivement de faire une coloscopie et vous lui promettrez, comme chaque fois, de vous occuper de cette petite broutille. Ce que vous ne ferez pas, et par conséquent, vous mourrez du même cancer. Le sourire de Harris, alors qu'il lâche le dossier sur son bureau encombré, est maintenant si large qu'il touche presque le lobe de ses oreilles. Et puis, vous viendrez ici et nous aurons la même discussion. Mon conseil serait que vous preniez l'autre porte et que vous en finissiez une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr, c'est une décision qui vous appartient. Bill a écouté ce petit sermon avec une consternation grandissante. Je ne me souviendrai de rien ? Rien ?
Pas tout à fait, répond Harris. Vous avez peut-être remarqué quelques photos dans le couloir.
Le pique-nique d'entreprise ?
Oui.
Chaque client qui me rend visite voit des photos de l'année de sa naissance et reconnaît quelques visages familiers parmi tous les inconnus. Quand vous revivrez votre vie, Monsieur Anders, à supposer que c'est la décision que vous prendrez, vous aurez un sentiment de déjà-vu quand vous verrez ces personnes pour la première fois, la sensation d'avoir déjà vécu ce moment. Ce qui bien sûr sera le cas. Vous aurez la sensation fugace, presque la conviction, que votre vie et l'existence en général ont plus de profondeur, dirons-nous, que vous ne l'auriez cru. Et puis, ça passera.
Si c'est toujours la même chose, sans possibilité d'amélioration, alors qu'est-ce qu'on fout là ?
Harris lève le poing et frappe quelques coups sur l'extrémité du tube pneumatique suspendu au-dessus du panier à linge.
Le client veut savoir ce qu'on fout là, veut connaître l'intérêt de tout ça.
Il attend. Rien. Il croise les mains sur son bureau. Monsieur Anders, quand Job a voulu savoir, lui aussi, Dieu lui a demandé s'il était là quand lui, Dieu, avait créé l'univers. J'imagine que cette réponse ne vous satisfait pas totalement. Alors considérons le sujet clos. Que voulez-vous faire ? Choisissez une porte.
Bill pense au cancer, à la souffrance, traverser tout ça à nouveau, sauf qu'il ne se rappellerait pas l'avoir déjà enduré. Il y a au moins ça. À supposer qu'Isaac Harris dise la vérité.
Aucun souvenir du tout ? Aucun changement ? Vous en êtes certain ? Comment pouvez-vous en être certain ?
Parce que c'est toujours la même conversation, Monsieur Anderson, à chaque fois et avec chacun de vous.
C'est Andrews !
Il hurle, se surprenant lui-même ainsi que Harris. D'une voix plus basse, il dit
« Si j'essaye vraiment, je suis sûr que je peux me raccrocher à quelque chose. Même si c'est seulement ce qui est arrivé au petit doigt de Mike, et un petit changement pourrait suffire à, je sais pas, emmener Anne-Marie au cinéma plutôt qu'à cette putain de beuverie ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? »
Harris dit, il y a un conte populaire qui dit qu'avant la naissance, toute âme humaine connaît tous les secrets de la vie, de la mort et de l'univers. Mais juste avant la naissance, un ange se penche, pose son doigt sur les lèvres du futur bébé et murmure,
chut.
Harris touche son propre philtrum. Selon la légende, ce serait la marque laissée par le doigt de l'ange. Tous les êtres humains l'ont.
Vous avez déjà vu un ange, Monsieur Harris ?
Non, mais une fois j'ai vu un chameau. C'était au zoo du Bronx. Choisissez une porte.
Alors qu'il réfléchit, Bill se souvient d'une nouvelle qu'ils avaient eue à lire au collège. La femme ou le tigre ? La décision qu'il doit prendre est loin d'être aussi difficile.
« Je dois me raccrocher à une chose, se dit-il, alors qu'il ouvre la porte qui le ramène dans sa vie. Juste une chose. »
La lumière blanche du retour l'enveloppe. Le médecin, qui va lâcher le parti républicain et voter pour Adlai Stevenson à l'automne prochain, chose que sa femme devra toujours ignorer, s'incline tel un serveur présentant un plateau et se redresse en tenant un bébé nu par les chevilles. Il lui administre une fessée retentissante. Et les braillements commencent.
Vous voilà maman d'un petit garçon en excellente santé, Madame Andrews, dit-il. Je dirais qu'il fait dans les 3 kilos. Félicitations. Madame Andrews prend le bébé. Elle embrasse ses joues et son front humide. Ils l'appelleront William, comme son grand-père paternel. Il aura 40 ans au début du 21e siècle. C'est une perspective étourdissante. Elle ne tient pas seulement une nouvelle vie dans ses bras, mais un univers de possibilités. Rien, se dit-elle, ne saurait être plus merveilleux. En pensant à Surendra Patel,